CFM Villefranche, le MAG.
En mars 2026, nous élirons nos conseillers municipaux et communautaires et il est crucial de comprendre les changements et les enjeux de ces élections, des élections aussi occasion de questionner l'avenir de nos territoires, des élections aussi l'affaire des jeunes. Pour en parler, j'ai choisi de lancer l'invitation à Danielle Favary, auteure et conférencière, lanceuse d'alerte, juriste environnementale, juriste spécialisée en droit de l'environnement. Bonjour Danielle.
Bonjour Danielle.
Vous avez lancé l'invitation, en même temps vous nous avez sollicité. Totalement pour parler et diffuser une info pratique. Ça vous semble essentiel au regard de votre parcours qu'on va peut-être, je vais vous laisser le présenter un petit peu. Vous avez quelques faits d'armes hein, sur le territoire. On s'était rencontrés il y a quelques années autour des gaz de schiste. On a entendu parler de vous sur le territoire autour du référendum d'initiative citoyenne. Vous êtes auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages. Puis vous êtes encore une fois juriste, donc vous êtes armé contrairement à nous autres et vous avez choisi de diffuser un petit peu plus l'information autour de ces élections, mais pas que. Un mot sur tout ce que je viens de dire et notamment sur ces faits d'armes, les gaz de schiste, c'est quand même pas rien, je le lance pas comme ça au hasard.
Effectivement, ça vient du jour où José Bové, donc un jour à Saint-Jean-du-Vauhel, m'a demandé de m'occuper de la partie juridique du gaz de schiste, effectivement, puisque le territoire était quand même menacé par un certain nombre de permis.
À Nantes, notamment.
Nantes, Beaumont-de-Lomagne, Villeneuve-de-Berge et Montélimar. Donc on était cernés de partout, effectivement.
À partir du sud d'Aveyron et puis ensuite...
Beaumont-de-Lomagne faisait 13 000 km2.
Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne.
Voilà, mais 13 000 km2, ça veut dire qu'on était vraiment aux frontières de l'Aveyron, C'était absolument gigantesque.
C'était pour l'exploration des
gaz
des sous-sols.
Des gaz de schiste, effectivement. Parce que je ne sais pas si certains s'en souviennent, effectivement, on avait eu des avions renifleurs à un moment donné, et donc il s'est avéré que sous-sol regorgeait de gaz de schiste, et le problème est que la fracturation hydraulique, c'est quelque chose d'extrêmement nocif, notamment au niveau des nappes phréatiques.
Il faut tout expliquer, la technique, en fait.
C'est la seule qui est connue. C'est un avantage et un inconvénient au niveau du procédé juridique, parce qu'en fait, c'est la seule technique qui est connue à l'heure actuelle. Donc, quand José m'a demandé de m'occuper de ça. Bien sûr, il y a eu des manifestations que je ne nie pas, mais personnellement, donc j'ai effectivement été un petit peu leader dans ce combat, et j'ai été sollicité pour faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui a été adoptée malgré la levée de bouclier d'un certain nombre de constitutionnalistes et d'avocats. J'ai attaqué le groupe Chukbak, c'est ma grande fierté quand même, et Total devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et les permis ont été abrogés. J'ai étudié donc 42 directives européennes pour, bien entendu, étendre cette interdiction de l'exploitation du gaz de schiste par la fracturation hydraulique à Bruxelles. Et donc, j'ai été entendue lors d'un workshop. Et ça aboutit, effectivement, à une recommandation de 2024. Ensuite, j'ai effectivement été lanceuse d'alerte parce que je me suis aperçue, à un moment donné, par un entrefilé sur un journal local, que une société de la Seine-sur-Mer voulait faire des études, en fait, pour la fracturation dans le sanctuaire Pélagos, en Méditerranée, là où il y a tous les dauphins, les baleines, etc. Donc, de faire des plateformes immergées, qu'on appelle. Et donc, j'ai alerté tous les maires de la Côte d'Azur jusqu'à Albert de Monaco.
Vous avez fait vos études à Aix-en-Provence, hein, donc oui. C'est un secteur que vous connaissez aussi bien, voilà. Et que j'imagine vous avez souhaité protéger.
Tout à fait. Puis la Méditerranée, parce que déjà, on avait eu les bouts rouges pour lesquels on avait combattu avec Michel Rivasi, José Bové, la regrettée Michel Rivasi, José Bové, etc. Et donc, je me suis aperçue de ça, mais par un tout petit entrefilet dans un journal local. Et donc, j'ai alerté tout le monde, et in fine, c'est Ségolène Royal qui avait le pouvoir, parce que moi j'avais le pouvoir de lancer l'alerte, mais j'avais pas le pouvoir de les empêcher en tout état de cause. Et donc c'est Ségolène Royal qui a interdit à cette société de faire cette de faire ces essais sous-marins, en fait, hein, d'explosion sous-marine pour la fracturation hydraulique. Voilà.
Et on peut le dire, c'est Jean-Louis Borloo, hein, je crois, qui a signé les papiers.
Les permis.
Pour, hein, les permis tout les au permis. Début. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on entend un politique dire « Ah, peut-être que j'ai fait une bêtise ». Il était revenu, en fait, sur cette signature. Il l'avait regretté. Hein.
Exactement. Et c'est Fabrice Nicolino qui s'est aperçu par la... parution donc dans le journal d'annonce légale de tous ces permis. C'est pour ça qu'il faut lire le journal d'annonce légale tous les jours et c'est ce que je fais.
Ah bah oui, bah, juriste, voilà.
Effectivement. C'est mon livre de chevet.
On vous doit beaucoup sur les gaz de schiste en France. Hein, voilà, vous l'avez dit. Et en Europe.
Et en Europe, oui.
Alors, mais c'est pas votre seul fait d'armes. Moi, je me rappelle aussi des gilets jaunes, mais aussi du TAFTA, du Mercosur qui a été acté la semaine dernière, en vendredi, il faut le dire. Vous avez pu... Enfin, il y a de nombreux ouvrages... Vous êtes autrice, auteur et co-auteur d'ouvrages autour des libre-échanges. Ça vous a préoccupé et ça vous a pris un petit peu de temps aussi. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc après le gaz de schiste, ben, il fallait que, effectivement, est venu les accords de libre-échange. J'ai été donc sollicitée par le Conseil économique, social et environnemental pour. J'ai été auditionnée, donc le CESE, hein, en l'occurrence, suite à une saisine de Manuel Valls. Et donc j'ai exposé tous les problèmes qu'il y avait. Il y avait déjà le Mercosur à l'époque, qui a été signé, effectivement, la semaine dernière, le 9 février.
TAFTA, CETA.
CETA. Etc., etc. Bon, ça, c'était une parenthèse, effectivement, avant les Gilets jaunes, puisque j'ai été Gilets jaunes à Souiri.
Oui.
Et après, donc, je me suis, bien entendu, préoccupée du référendum d'initiative citoyenne, donc, pour lequel j'ai fait un bouquin assez complet. Voilà.
Daniel Favary, référendum d'initiative citoyenne, mode d'emploi, précisément.
Mode d'emploi, hein. Absolument, tout à fait.
Et donc voilà, bah, ça explique un petit peu le pourquoi de votre démarche citoyenne aujourd'hui de diffuser une information pratique autour de ces élections, parce que les règles changent un petit peu, il y a la nécessité d'expliquer un petit peu les choses, et puis aussi on parle beaucoup des élections municipales, beaucoup moins des élections des élus communautaires. Et de l'intercommunalité, et c'est vrai qu'il y a peut-être un petit vide. Certains sont encore persuadés que c'est la commune qui s'occupe du ramassage des ordures ménagères. Voilà, les compétences, c'est bien de maîtriser les compétences de nos différentes collectivités. Hein. Je serais tenté de dire de la mairie au PETR, en passant par le SCOT, le département ou encore la région. De connaître les compétences de ces différentes structures, ça permet de se situer. Et puis, on a le droit de s'en fiche aussi, hein, au passage, Daniel. Mais
parce que le PCI...
On n'a pas le droit. Alors, on n'a pas le droit de s'en
fiche. Public de coopération intercommunale, qui d'ailleurs siège au Trespierre, ici à Villefranche-de-Rouergue et tout ça.
Ouest Aveyron Communauté pour
Ouest Aveyron Communauté, comme pour les intimes.
Ouais.
Effectivement, c'est vraiment le centre décisionnel. Ils ont vraiment en charge de projets que les municipalités n'ont pas les moyens de financer. Bien entendu, ça concerne l'économie, le tourisme, l'enseignement supérieur, l'urbanisme, les PLUI, donc, ouais. En l'occurrence, pour lesquels on a eu d'ailleurs une enquête.
Allez, ne partons pas trop sur l'intercommunalité.
Okay.
On
tout
va partir sur les municipales et pourquoi il est si important de s'inscrire sur les listes électorales. On intervient aujourd'hui pour dire qu'avant, il faut le faire avant le 4 février. Alors, si on est déjà inscrit, tout va bien. Si on vient d'avoir 18 ans, je crois que c'est automatique.
Voilà.
Mais...
Donc, on peut le faire jusqu'au 4 février en ligne. C'est France Connect. Hein. Tout le monde connaît France Connect, plus ou moins maintenant, puisque tous les services publics sont regroupés là-dessus. Donc, en ligne, l'échéance est le 4 février. C'est le 6 février en présentiel en mairie. Il y a des inscriptions dérogatoires jusqu'au 5 mars pour un certain nombre de cas de figure qu'on ne va pas tout développer, mais c'est par exemple les militaires envoyés dans leur foyer, les agents publics qui ont été mutés, etc. Ceux-là le savent, bien entendu. Il faut donc avoir, pour être électeur, avoir au moins 18 ans, bien entendu, le jour de l'élection. Comme vous l'avez dit, les jeunes qui ont atteint cet âge entre les deux opérations de révision des listes électorales, ils sont inscrits d'office. Il faut être de nationalité française ou citoyen d'un pays membre de l'Union européenne, si on est domicilié dans la commune, hein, par exemple. Dans ce cas-là, bon, il faut avoir d'autres justificatifs, parce que pour s'inscrire, il faut la carte d'identité. Un justificatif de domicile suffit. Si on est citoyen européen, ce qui est donc possible d'être inscrit sur les listes électorales de la commune de résidence. Il faut à ce moment-là le titre de séjour, le passeport, une attestation sur l'honneur, disant qu'on n'est pas déchu du droit électorale dans son pays d'origine. Voilà. Il faut ne jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas, par exemple, être sous un cas d'incapacité, comme par exemple avoir une condamnation pénale, oui. ou encore être sous tutelle ou sous curatelle.
C'est beaucoup d'informations que vous livrez très rapidement à l'antenne, mais vous avez édité un document, hein, je crois savoir, Daniel Favary, autour de ces infos pratiques, ou comment on pourrait appeler ça, hein.
Voilà, un guide municipal, qui est un peu technique quand même.
Ah bon, c'est un guide technique, d'accord. C'est bien la radio pour essayer d'être...
Avec tous les textes de référence. Donc effectivement...
Qu'est-ce qui change en 2026? Parce qu'on a tous, pour ceux qui ont voté, il y a aussi ça, une info pratique à livrer en direction de ce public. Qu'est-ce qui change en 2026? Je crois que le panachage, ça c'est un peu... Pour certaines communes de moins de 1000 habitants, hein, c'est ça?
Voilà, pour les communes de moins de 1000 habitants, il y a une généralisation donc du scrutin de liste avec paritaire, en fait. Hein,
parce donc, homme-femme.
Homme-femme, ouais. Voilà, alternance homme-femme, à deux tours, qui est étendue effectivement aux communes de moins de 1000 habitants. C'est Laurent Alexandre, le député, qui a porté cette proposition de loi en tant qu'ancien maire d'Aubin. Voilà. Donc, il y a une autre chose qui change effectivement cette année, parce que le ministère de l'Intérieur donc a dématérialisé les procurations, parce que des gens qui ne peuvent pas se rendre dans le bureau de vote le jour du scrutin peuvent donc faire des procurations. Maintenant, donc, c'est dématérialisé sauf qu'il faut avoir l'identité numérique. L'identité numérique, c'est nécessaire de s'inscrire sur France certifié par France Connect toujours et tout. C'est toujours des démarches quand même qui sont peut-être un petit peu compliquées pour certaines personnes. Voilà. Et donc ils ont un QR code seulement à ce moment-là qu'ils ont en mairie. On peut parler effectivement des candidatures aussi. À l'heure actuelle.
Oui, oui. Moi, j'aurais voulu parler des jeunes, parce que vous allez intervenir en fin de semaine à la Maison des Jeunes Citoyens. Vous avez vraiment pris votre bâton de pèlerin, Daniel Favary, pour diffuser le plus largement et puis inciter les gens à aller voter. Et d'ailleurs, une question en marge des infos pratiques. Qu'est-ce qui vous anime comme ça? Alors, on l'a entendu de par votre parcours, mais si vous aviez à nous le dérouler un petit peu.
L'intérêt général.
L'intérêt général,
ouais. L'intérêt général. Mmh. Ça m'a toujours intéressé, effectivement. Je pense que c'est nécessaire. Et puis, quand on s'aperçoit, je veux dire, et qu'on parle aux gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'Assemblée nationale, par exemple, ou le Parlement, qui est composé de deux chambres, chambre haute, chambre basse, et tout ça, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire, parce que voter ou élire, c'est quand même une démarche démocratique qui nécessite une certaine connaissance, bien entendu.
Et pour certains, il faudrait un permis de voter. Pardon, je m'excuse de ce... Daniel, oui, pardon, vous avez à réagir à ma bêtise?
Voilà, parce que voter, c'est une chose. Voter, ouais. On vote pour des propositions de loi, ouais. Des projets de loi. C'est le rôle de l'Assemblée nationale,
où
on vote pour des référendums. Nous, c'est effectivement un problème sémantique et récurrent. Moi, je peux le faire également des fois aussi. C'est une erreur sémantique. On élit quelqu'un. On ne vote pas pour quelqu'un. Voilà. c'est la difficulté.
J'ai oublié de le dire dans la longue présentation de vos fonctions, missions. Vous êtes également la présidente de l'association Mesures Conservatoires, association qui... l'idée, c'est d'animer des réunions d'éducation populaire.
Hein, des cours d'éducation populaire à la rentrée prochaine. Voilà, oui, non. Je vais m'y consacrer, effectivement.
On a encore un petit peu de temps. Pour l'instant, il y a les élections. Le public est jeune. Vous allez vous adresser à ce public jeune. Pourquoi est-ce qu'il devrait s'intéresser aux élections municipales, ces jeunes? J'ai l'impression que c'est une élection... Les gens vont voter pour les élections municipales. Il y a moins d'abstention que sur d'autres élections. Je pense peut-être aux européennes, aux législatives, aux cantonales.
Absolument. Oui, je pense qu'effectivement, la proximité, je veux dire, avec le maire, avec les conseillers municipaux et tout, fait que les gens peuvent s'intéresser davantage. Il y a moins d'abstention, je pense, pour les élections municipales que ça. Par contre, il y a une chose qui me tient, moi, à cœur, c'est que très peu de communes le font. Bon, il y a un problème démocratique dans le sens où, pour moi, la Constitution, le seul, parce que on a des élections. On n'a pas voté pour un référendum depuis 2005. quand même. Hein. On voit ce qu'il est devenu, en l'occurrence, puisqu'il a été transformé.
C'est pas très encourageant hein, d'aller voter pour un référendum quand on voit...
Le traité de Lisbonne, après, quoi, qui a été...
Totalement bafoué.
Totalement, voilà. Notre vote a été totalement bafoué à ce moment-là. Moi, je pense que, je veux dire, la démocratie participative, elle doit se faire localement, justement. C'est pour ça que les élections municipales, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour que les citoyens se réveillent et prennent en charge leur destinée.
Alors, quand vous m'avez appelé, Daniel Favary, pour donc diffuser cette information pratique autour des élections, elle vient avec une étiquette et je suis resté très prudent pour bien sentir et savoir. vous n'êtes pas engagé dans une liste quelconque. Hein. Vous le dites aujourd'hui et c'est diffusé. Hein.
Absolument pas.
Bon, c'est pas votre intention, c'est vraiment de l'info pratique. Mais tout ça, élections municipales, ok. Et pourquoi parler des élections communautaires où nous, on n'est pas amené à voter. Alors, les candidats seront fléchés pour cette année. C'est une autre particularité de ce scrutin et de cette année.
On élit, vous voyez, comme quoi, c'est aussi une erreur sémantique.
Les gens qui vont siéger.
Les conseillers municipaux.
Oui.
Donc, pour Villefranche, parce que le nombre de conseillers municipaux dépend de l'importance et du nombre d'habitants de la commune.
Oui.
En l'occurrence, bon, Villefranche, plus de 10 000 habitants, tout ça. On va élire 33 conseillers municipaux.
Oui, c'est ça. Des gens qui vont, oui, absolument, pour Villefranche-de-Rouergue, parce que on peut parler plus largement pour les autres communes aussi. Il n'y a pas que Villefranche.
Bon, on va pas détailler, parce que ça part de 100 habitants jusqu'à 50 000 habitants. Et les conseillers communautaires qui vont siéger, donc, au sein de Ouest Aveyron, communauté de communes. Nécessairement, pour être conseiller communautaire, il faut être conseiller municipal également.
Bien sûr.
Donc, sur les bulletins de vote, vous allez avoir à gauche les conseillers municipaux, à droite les conseillers communautaires, toujours dans une
ça
parité égale.
Oui, oui, ça
ah, mais ce
être...
sont les mêmes noms, nécessairement. Quoi, en fait, hein. Tout le monde, donc 33 conseillers municipaux, 26 conseillers communautaires qui vont siéger au sein de Ouest Aveyron, communauté de communes.
L'intercommunalité, j'ai la sensation que c'est la collectivité quand même qui guide notre vie sur le territoire. Vous avez commencé à aborder avant de dire, attendez Daniel, on y reviendra, le plan local d'urbanisme intercommunal, il conditionne la vie des citoyens des 29 communes de l'intercommunalité.
De 29 000 habitants, quoi. Bien sûr, de 29 000 habitants.
C'est là où se joue comment dire, l'avenir du territoire aussi.
Absolument,
cette collectivité.
Ouest Aveyron. Et puis donc, comme on l'avait dit en aparté, effectivement, il ne faut pas appeler à la commune quand on a des problèmes de ramassage d'ordures ménagères, parce que c'est Ouest Aveyron, communauté de communes, et non pas la commune maintenant, effectivement, qui malgré tout, je veux dire, a quand même un grand nombre de fonctions. Hein. Maire a énormément de charges sur lui. Il est officier... officier de police, police judiciaire, il est officier d'état civil, etc., etc. Heureusement, il peut quand même déléguer un certain nombre de fonctions à ses adjoints qui seront élus après lui lors de l'installation du conseil municipal.
Quel conseil donneriez-vous, Daniel Favary, aux électeurs pour éviter des erreurs sur les bulletins de vote? On n'a plus le droit de rayer les noms, hein, ça c'est fini. On est ça, par exemple,
plus de panachage.
Il y a d'autres choses.
Plus de panachage, plus de rature, plus le moindre trait de stylo et tout ça. Moi, je sais, je suis au dépouillement en général et tout ça. Le moindre trait de stylo sur un bulletin, c'est que le bulletin est nul.
Bulletin nul.
Oui.
Bulletin blanc, par contre, et l'importance du bulletin blanc est d'aller voter tout de même.
Il y en a très peu. Moi, j'ai vu aux élections législatives, il y avait très peu de bulletins blancs, en l'occurrence. Hein. Les bulletins nuls, oui, ça arrive. Donc, il faut effectivement savoir qu'on vote là pour les deux. Vous allez recevoir les professions de foi, vous allez voir que quand vous allez... Ben pour Villefranche, ça va être assez grand, hein, parce que 33 noms d'un côté...
Il n'y a pas que Villefranche, on s'adresse à l'ensemble des communes.
Il faut savoir que vous votez pour les deux en une seule fois, cette fois-ci. Effectivement, c'est une particularité de l'élection des 15 et 22 mars 2026. Il faut le rappeler les dates, à la fois pour les conseillers municipaux et les conseillers communautaires.
Daniel Favary, on le rappelle, vous êtes auteure-conférencière, lanceuse d'alerte, juriste environnementale. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Parce que le temps est passé très très vite. Je ne sais pas si vous avez dit tout ce que vous aviez à dire et ce pourquoi vous nous avez sollicité.
Ce que je voulais dire, effectivement, qui est quelque chose d'assez important, parce que les citoyens ne savent pas, et on se demande même si les maires d'ailleurs lisent la Constitution du 4 octobre 1958, parce que la seule chose qui est vraiment prégnante au niveau de la, de local, au niveau localement, quand on a peu de possibilités de s'exprimer soi-même, hein, parce que là, à l'heure actuelle, comme je vous dis, je fais un recours auprès du Conseil constitutionnel, on voit qu'on a énormément de verrous, c'est la possibilité, donc, de faire, par l'exercice du droit de pétition, de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire le Conseil municipal, d'une question relevant de sa compétence. C'est l'article 72.1 de la Constitution.
Oh, vous m'avez perdu. Je vais me le rembobiner, me le repasser plusieurs fois. Et sinon, en VF, ça veut dire quoi, en VF ?
Ça veut dire, c'est un référendum local.
D'accord, très bien.
C'est un référendum local.
Très bien. Vous serez à la Maison des Jeunes Citoyens pour diffuser des informations pratiques sur ces élections municipales, communautaires auprès d'un public plus jeune. Et peut-être qu'on vous verra animer des réunions d'éducation populaire. Alors, c'est plus à la rentrée,
c'est pas lié. Il faut que je prépare quand même.
Autour de l'association.
Il faut que je le prépare. Mesures conservatoires.
Merci, Daniel Favary, pour cette proposition. Voilà, on a trouver un espace pour vous accueillir.
Je vous en remercie, David.
Avec plaisir.
Énormément.
Tous aux urnes, c'est ça le mot d'ordre ?
Oui, tous aux urnes. Hein,
c'est important de voter.
Pas d'abstention,
c'est important de voter.
Absolument.
Allez, c'était le MAG du jour en podcast sous peu sur le site cfmradio.fr et à la suite du programme dans un instant. Et à bientôt pour une nouvelle édition du MAG demain. Merci.
CFM Villefranche, le MAG.